Studio Tamani, voici les informations en français.
8h à Bamako, mesdames, messieurs, bonjour, voici le titre de cette matinale. 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le Mali réaffirme sa détermination à défendre son intégrité territoriale face aux interventions extérieures. Le tourisme et la paix, c'était le thème de la Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année. Au Mali, le secteur est toujours en hibernation à cause de l'insécurité. Des vidéos des personnalités, des influenceurs chantant ou dansant sont désormais virales sur les réseaux sociaux. Ces vidéos sont des deepfakes. Comment les fabrique-t-on? La réponse dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo, mise en onde Nuhum Djiré. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette matinale. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, était face à la communauté internationale le 28 septembre dernier. C'était lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Cette session avait pour thème de ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futur. Du haut de la tribune des Nations Unies, le colonel Abdoulaye Maïga a porté le message du Mali. Le décryptage de ce message avec Jiadata Maïga.
Sans détour, les ministres d'État, de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a mis l'accent sur les événements qui ont conduit à la déstabilisation actuelle de la région. Le porte-parole du gouvernement malien a rappelé les différents sentiers entrepris par les autorités maliennes depuis leur arrivée au pouvoir. Il s'agit notamment de l'équipement et la réorganisation des forces de défense et de sécurité. S'agissant du processus de la transition politique, le ministre d'État a rappelé que le peuple malien a choisi de mener des réformes politiques avant d'organiser les élections. Selon lui, ce choix est issu des recommandations des Assises nationales de la Refondation. Sur le plan de la lutte contre l'insécurité, colonel Maïga a affirmé que les forces de défense et de sécurité maliennes, de manière autonome, continuent d'engranger des résultats sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis et les forces de défense et de sécurité sont déployées sur l'ensemble du territoire national. Le ministre Maïga a également dénoncé l'ingérence des autorités algériennes dans les affaires intérieures du Mali.
Pour des analystes politiques, le discours du porte-parole du gouvernement malien est en phase avec les réalités nationales. Golo Diarra estime que tout ce qui a été dénoncé à New York, notamment les cas de violation des textes en matière des relations internationales, doit être entendu et soutenu par la communauté internationale. Il réagit au micro de Jiadata Maïga.
C'est un discours bien mesuré, c'est un discours de dénonciation qui essaie de critiquer des pratiques qui sont rejetés dans les relations internationales, notamment non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État, l'interdiction de recourir à la force armée dans les relations internationales. Les pays ciblés, c'est la France accompagnée par l'Ukraine et même l'Algérie actuelle. Et ce discours serait partagé ou bien adulé par la communauté internationale. La communauté internationale, c'est le système des Nations Unies. Le porte-parole de l'État malien n'a fait que parler des violations des textes des Nations Unies par ses puissances. Alors de facto, ou bien de jure, en réalité, ça serait aimé par, en tout cas, les partisans des Nations Unies et les amis pour la défense des idées des Nations Unies.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. 8h04 à Bamako, des voleurs de carburant ont été arrêtés à la centrale de Balingué en possession de 24 bidons remplis de gasoil. C'était dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. L'information a été donnée par la Société Énergie du Mali dans un communiqué rendu public samedi dernier. Selon EDMSA, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de la commune 2 de Bamako pour élucider l'affaire. Le diabète n'est pas une maladie héréditaire, néanmoins 15% des enfants l'ont au Mali à travers leurs parents. Selon des spécialistes de la santé, cette pathologie est liée à un manque de sécrétion d'insuline par le pancréas. Alors quels sont les symptômes et traitements médicaux du diabète chez l'enfant? Comment ces derniers vivent-ils la maladie? Soumaïla Issa Maïga est parti à la rencontre des diabétologues et enfants diabétiques. Suivons son reportage.
Le diabète ne touche pas que les personnes âgées. Le type 1 touche fréquemment les enfants au Mali selon les spécialistes. Dr Amangara Togo, diabétologue et médecin référent des enfants diabétiques au Mali. Il revient sur ces signes chez l'enfant.
Les signes du diabète chez l'enfant, il urine beaucoup, il boit beaucoup, il mange beaucoup et pourtant il maigrit, il n'a pas d'énergie. Il peut avoir des infections cutanées. Le diabète de l'enfant n'est pas une maladie héréditaire, mais le diabète de l'enfant est plus fréquent dans une famille où il y a le diabète.
Alimatu Togola est diabétique et ses quatre enfants portent la maladie depuis leur naissance. Cette mère a su s'adapter et contrôle le régime alimentaire de ses enfants.
J'ai moi-même la maladie. J'ai aussi un glycomètre. C'est ce qui m'a permis de détecter la maladie chez mes enfants. On ne consomme pas de sucre chez moi, mais quand mes enfants ont des envies de sucreries, car ils voient les autres enfants les consommer, je les injecte un peu d'insuline. J'ai aussi l'habitude de leur acheter des yaourts et des Coca-Zero.
1660 enfants diabétiques diagnostiqués à ce jour au Mali, alors qu'en 2000, seulement 22 cas étaient enregistrés. Une évolution fulgurante de la maladie qui inquiète les spécialistes de la santé.
Reportage signé Soumaïla Issa Maïga, nos stagiaires qui nous viennent de l'École supérieure de journalisme. La Journée mondiale du tourisme a été célébrée vendredi dernier, 27 septembre, dans le monde. L'édition de cette année avait pour thème le tourisme et la paix. Au Mali, cette journée est intervenue au moment où la profession de guide touristique est quasi inexistante à cause de la crise sécuritaire qui a fortement mis à mal le tourisme au Mali. Amidou Guindo, chargé de communication de l'Association des guides touristiques de Mopti, se dit sceptique quant à une reprise de leurs activités au regard de la situation sécuritaire. Il est joint au téléphone par Mahamoud Agrissa.
Interdit parce que pourquoi les touristes qui viennent pour la visite au Mali, je vais te dire, ils viennent pour Mopti, Guéné, Pays d'Ogo, Timbuktu. Bon, les restes de localités. On ne peut pas aller visiter Timbuktu, ni Pays d'Ogo, ni Guéné. Donc voilà, on peut dire que le secteur touristique est totalement à deux. Comment on survit? Okay. On est des collègues, des amis, souvent on se donne la main et souvent aussi s'il y a un petit truc à vendre ou avoir un petit prix du pain de 1000 francs, 2000 francs, 500, 750, voilà, c'est comme ça on se survit. Les guides, ils n'aiment pas voler, on ne veut pas faire des choses qui sont criminelles. Mais tout ce qui a comme les petites activités, nous, on est prêts à faire. On demande un secours à l'autorité. S'il arrive à nous aider, parvenir à nous aider d'une manière ou d'autre, vraiment, ça nous fera beaucoup, beaucoup plaisir.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali Urtel, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
À présent, la rubrique Vérifions qui vous permet de démêler le vrai du faux, des vidéos du président chinois en train de parler en bamanankan ou encore des personnalités qui dansent ou chantent sont entre autres vidéos qui circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Pourtant, elles sont juste le fruit de l'intelligence artificielle. Draman Maïga.
Vous passez du temps sur Facebook, TikTok ou WhatsApp? Vous êtes certainement tombé sur des vidéos qui mettent en scène des influenceurs ou des personnalités publiques. Un exemple, le président chinois qui parle Bambara, ou encore un TikToker ougandais qui se prononce sur la fête d'indépendance du Mali. Ces vidéos sont largement partagées souvent. Et en lisant les commentaires, on se rend compte que plusieurs internautes sont induits en erreur, car ils croient à des vidéos qui se trouvent être fausses. Heijen, Vidnoz, Dreamface, pour ne citer que ceux-ci, sont des outils d'intelligence artificielle IA qui permettent de créer en toute pièce de telles images. Par exemple, une fois sur l'application Dreamface accessible sur le téléphone, vous pouvez juste télécharger une photo et un audio et ensuite demander à l'outil de générer une animation selon vos besoins. En quelques secondes, vous aurez une vidéo comme vous l'avez demandé. Certes, les outils de l'intelligence artificielle deviennent de plus en plus incontournables car utilisés dans différents domaines. Mais une mauvaise utilisation de ces outils peut tromper plus d'un.
Le déguerpissement de certains marchés à bétail, le procès dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel des équipements militaires et l'opérationnalisation de la nouvelle carte administrative du Mali sont des sujets largement traités cette semaine. Sali Sissoko.
Nous commençons cette rétrospective par le procès de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et équipements militaires. L'audience a débuté le 24 septembre 2024 à la cour d'appel de Bamako. Devant le parquet, Mme Boire Félix Sissoko, ancien ministre de l'économie et des finances, a déclaré avoir été mise devant le fait accompli. Elle a demandé la présence des témoins clés dans cette affaire. La fermeture de cet marché à bétail à Bamako a aussi marqué l'actualité de la semaine dernière. Suite à des rencontres entre les autorités et les responsables de la filière bétail, certains lieux, en l'occurrence aux Antikila, Cathédrale et Sanankoroba, remplaceront les parcs fermés. Nous terminons cette rétrospective par la grâce présidentielle accordée à 390 détenus des différents établissements pénitentiaires. L'annonce a été faite le 25 septembre dernier dans un communiqué du ministère de la Justice. Cette mesure vise à désengorger les prisons.
Vous pouvez réécouter toute cette édition en appelant au 37 321, notre place sur la plateforme Viamo, ou en faisant un tour sur le site de Studio Tamani, studiotamani.org. C'est la fin donc de ce journal présenté par Sekou Gadjigo, mis en nom de Nuhum Djiré. Tout de suite la version en Bamanankan avec Aïssa Tadjara. L'environnement est devenu une préoccupation majeure à l'échelle mondiale à cause des agressions auxquelles il fait face, mettant ainsi en péril l'existence même de l'humanité. Au Mali, on peut citer notamment la dégradation de des écosystèmes, l'effondrement de la biodiversité et l'épuisement des ressources naturelles. Dans ce contexte, des experts prônent le renforcement de l'éducation environnementale à tous les niveaux, notamment scolaires, cela afin de sensibiliser les élèves à la durabilité et à la promotion des comportements respectueux de l'environnement. C'est le thème du magazine Parlons de l'environnement de ce matin. Il est réalisé par Fatih Yatara.
Au Mali, le respect de l'environnement et sa défense sont des notions enseignées dans les écoles, selon les autorités scolaires. Ce sont des modules qui concernent tous les niveaux de la scolarisation, selon le directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti, Daouda Doumbia.
La question environnementale est prise en compte dans les programmes officiels de l'éducation nationale partout au Mali. On commence depuis les petites classes avec des notions élémentaires. Et ensuite, au niveau du fondamental 2, cette même question est suffisamment abordée, surtout au niveau des classes de 8e. Et au lycée, c'est les classes, ce sont les premières activités d'enseignement, surtout dans le domaine de SVT.
Cela est perceptible à travers la réaction de quelques écoliers rencontrés à Mopti, Tombouctou et Gao.
Ah oui, il y a un changement climatique.
J'ai entendu parler du changement climatique.
Mon maître nous a expliqué qu'il s'agit de la dégradation de l'environnement.
Je ne connaissais pas le changement climatique, mais j'ai appris ce que cela veut dire à l'école.
On m'a expliqué que le changement climatique est provoqué par la coupe abusive du bois.
Je sais que le changement climatique, c'est l'incivisme qui le provoque.
Certains environnementalistes saluent cette initiative. Elle est cependant insuffisante selon eux. Les consultants en environnement Tidjane Sangaré prônent l'insertion de la question de l'environnement dans les systèmes scolaire en tant que programme à part entière.
Il faut que cette notion, ce module, soit inséré dans le programme d'enseignement au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire. Quelque chose dont ils seront responsables de demain, ce n'est pas qu'on va attendre le jour où ils vont devenir responsables qu'on va les associer. Non, c'est dès maintenant.
La lutte contre les effets du changement climatique est devenue une lutte transversale qui concerne tout le monde.
Le psychologue et pédagogue Mahamane Touré abonde dans le même sens. Pour lui, l'enseignement de l'environnement doit être réadapté, renforcé à l'urgence du contexte pour plus d'implication des élèves dans la lutte contre les changements climatiques.
Et là-bas, au niveau de l'école, il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup d'attitudes et de comportements qui doivent être inculqués pour que les enfants puissent non seulement connaître à fond et avoir des compétences et des connaissances sur le phénomène. Et une fois qu'ils ont des connaissances et des compétences sur le phénomène, alors ils prendront la mesure que ce phénomène, il faut par tous les moyens essayer de le combattre.
Certains parents d'élèves fondent de l'espoir sur ces propositions. Ils estiment que l'éducation environnementale peut pousser les enfants à développer des compétences liées aux énergies renouvelables, à la gestion des ressources naturelles et à la protection de l'environnement.
Je pense qu'on peut très bien initier les enfants dans la lutte contre le changement climatique ou plutôt le réchauffement climatique.
Parce que si on apprend aux enfants, par exemple, qu'utiliser des plastiques qui ne sont pas biodégradables peuvent impacter la nature si on n'implante pas des arbres peut aussi jouer sur notre climat.
Je pense que si, c'est possible et c'est même bien normal qu'on implique tout un chacun, particulièrement les enfants, dans ce phénomène de lutte contre le réchauffement lié au changement climatique.
Donc je pense qu'on peut très bien éduquer les enfants.
Tout d'abord en commençant par l'éducation au changement climatique.
Enfin, l'éducation environnementale contribue à la formation des citoyens responsables et engagés, s'accorde de chercheurs. Merci d'avoir suivi ces numéros. À la prochaine.